pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 192. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça avec mon camarade, le petit américain, Benjamin François. Hello, comment tu vas ?
Le petit américain ?
Et tu sais pourquoi j'ai pensé à ça ? C'est parce que mon fils, il regarde Tom Sawyer en ce moment.
Ah oui.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le générique ?
Alors, Tom Sawyer, c'est l'Amérique.
Le symbole de.
De la liberté.
Il est né sur les bancs.
Il est né sur le rive du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Mais alors, attends.
Ouais. Il n'a peur de rien. C'est un Américain.
Ouais, tu vois la conséquence logique. Il n'a peur de rien. C'est un Américain. Car c'est connu, les Américains n'ont peur de rien.
Il aime l'école. Et ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Il aime l'école.
Surtout quand elle est loin.
Donc, soit. Il aime se galérer en chemin et il aime les longs chemins, ce qui est possible, hein, parce que c'est pour ça que tu deviens un bon coureur demi-fond, c'est quand ton école est loin.
Soit il n'y va pas, quoi.
Soit c'est une manière de dire je t'aime moi non plus, et non, il vaut mieux que l'école soit. Je suis en train de ranger des manettes de console mini en même temps.
Ah, mais je t'en prie.
C'est vraiment Baptiste, il va être content au montage.
Non, parce que tu crois qu'il va monter, qu'il va couper ça, mais non, ça, il va le laisser, ça.
Ah non, non, bien sûr. Son parasite, mais bon Dieu, mais je le garde. Ah, on t'embrasse, Baptiste.
On embrasse Baptiste, et puis bah, j'embrasse tous les auditeurs à qui je dis bonjour, puisque voilà, j'ai pas encore dit bonjour, vu que le petit Américain m'a un petit peu pris par surprise, je t'avoue. Daniel, et ça fait plaisir d'être là. On devait enregistrer la semaine dernière, mais je le sentais pas trop, parce que la semaine dernière... C'est produit, Minneapolis, comme on dit.
Ah, c'est ça, en fait, je savais pas, moi, tu m'as dit...
Ah oui, moi, j'étais complètement déprimé à cause de ce qui se passait à Minneapolis.
Tu m'as dit, écoute, je joue à des jeux de merde, ça intéresse personne, au revoir.
Disons que j'ai joué à des jeux de merde pour penser à autre chose, quoi.
Bah, pas du tout dit ça, mais j'avais pas compris que c'était Minneapolis que...
Ah si, moi, ça m'avait complètement déprimé.
Et j'avais pas compris que l'impact de Minneapolis pouvait être... Alors que Minneapolis, c'est quand même à...
C'est pas à côté.
Je veux dire, techniquement, la Russie est plus proche de nous à Paris que Minneapolis l'est de toi.
Ouais, c'est possible. Bah attends, maintenant, je vais vérifier cette affirmation parce que... alors attends, la distance Paris-Moscou, c'est combien ?
Ah, tu sais quoi ? Attends, on va faire du Google. Distance Paris-Moscou. Paris-Moscou.
Minneapolis à Los Angeles, il y a 3000 km.
Et à la distance Paris-Moscou, il y a 2834 km.
Donc effectivement, Moscou est plus près de Paris que Minneapolis de Los Angeles.
Et la Biélorussie, et la Pologne, enfin tout est... Mais par contre, on ne prend pas des raccourcis. Hein. Je pense qu'il faut avoir un petit visa pour la Biélorussie. Là, en ce moment.
Oui, pour traverser plusieurs pays, pour arriver à Moscou.
Non, mais jusqu'à la Pologne, c'est bon.
Ouais.
Mais après, alors qu'aux États-Unis, il faut juste avoir une arme.
Alors, en principe, l'arme, non, t'es pas censé traverser la frontière entre les États avec une arme.
Pourquoi ? Tu peux porter une arme que dans ton État ?
Non, je crois pas que ce soit illégal, mais t'as des règles spécifiques par État.
Oui, par exemple, il faut la garder soit à la ceinture... Soit il faut la garder dans la boîte à gants, enfin je sais pas quoi. Mais...
Bah en fait, t'as des états où t'as le droit d'avoir une arme visible, t'as des états où t'as le droit d'avoir une arme mais pas visible, puis t'as des états où t'as juste pas le droit de te balader avec une arme en fait.
J'en ai souvent parlé de ces malaises que j'ai eus quand on a traversé l'Utah avec ma compagne. Et l'Utah, est... depuis, à chaque fois que je parle de l'Utah aux Américains, je leur dis fuck Utah, je déteste l'Utah. Genre, ils avaient la ceinture, ils avaient des guns à la ceinture dans un petit burger de joint. À la con, et je suis pris de malaise, quoi. Déjà que ce soit les forces de l'ordre, il y a des forces de l'ordre qui devraient pas, enfin, genre, police municipale, tu vois, c'est pas la peine. Mais là, carrément, des mecs lambda dans la rue, c'est un peu flippant, quoi. Mais on a fait le point sur les États-Unis, il n'y a plus rien d'autre à raconter.
Pas besoin d'aller si loin, hein, parce qu'en Arizona, déjà, c'est open carry. Quand on était allé au Grand Canyon et que sur le trajet du retour, on était allé au resto, on a vu passer un mec avec un... Ça doit être un AR-15 qu'il avait dans son dos.
Est-ce que tu te souviens, toi et moi, je t'avais dit, quand je suis allé chez toi pour la première fois, je crois, je t'ai dit, viens, on va à un gun club.
Oui, je me rappelle très bien.
Et il y avait un mec qui s'était ramené au gun club avec son... Il avait son attaché-caisse, c'était pas son armure d'Iron Man dedans, mais il avait un fusil de snipe pour tirer pour tirer à la lunette sur des milliers de mètres, quoi. Et genre,
bah, il y avait les deux Japonais qui étaient dans la cabine à côté de la nôtre, ouais, qui essayaient les et à un moment ils ont essayé un fusil de snipe.
Oui,
de ma boule, quoi. Eux, ils essayaient toutes les armes les plus zinzin.
Ils étaient morts de rire.
Et ah ouais, ils s'éclataient.
Moi, au bout d'un moment, le paf-paf, ça m'a un peu... Toi, je sais que c'était pas du tout ta cam.
Ah, moi, j'étais mal à l'aise du début à la fin, moi.
Mais en plus, c'est con parce que... Enfin, tu vois, moi, quand j'étais gamin, j'ai eu un père qui m'a appris un peu les armes. Genre le fusil, le 22 LR et tout. Ça faisait partie de tous ces rites initiatiques un peu à la con. Mmh. On se dit, ah, il faut que j'apprenne à mon fils à tirer au fusil et tout. Et tu vois, mon père, il prenait des vieux Figaro magazines que nous laissait le voisin. Il les mettait au loin dans le champ. Et il disait, viens, on tire dessus. Ou voilà, on tire sur les vieux Figaro et tout. Et j'ai appris à tirer sur le Figaro.
Hop, c'est un usage utile du Figaro magazine.
Non, mais tu vois, c'était... Mais en plus, on avait... Sinon, il y a la presse régionale, mais on avait trop de respect pour la presse régionale.
Parce qu'en papier toilette, c'est pas terrible, en fait. Le papier, ça, voilà, c'est pas génial pour se torcher le cul, mais pour tirer dessus, bien.
Mais tu dis te torcher le cul, mais à l'époque, c'était pas encore d'assaut, hein. C'était Hersant, et c'était... Et genre, et on se disait...
Oui, enfin, c'était Hersant, excuse-moi, quoi.
Et tu sais, on se disait, ouais, non... Pas ouf, mais en fait, aujourd'hui, quand tu vois le spectre... Bon, allez, peu importe, on va pas chier sur la politique d'un vieux journal d'il y a 40 ans, puisque ça remonte à il y a 40 ans. J'ai appris à tirer à l'arc aussi, puisqu'il m'a aussi appris à comment tirer à l'arc, et également sur des magazines de presse. Voilà, c'est des choses qui se faisaient. Je voulais revenir sur un truc qui m'a... Bah, puisque tu parles des États-Unis, on va en parler. Mm-hmm. Ça, c'était pendant les élections présidentielles, les dernières. Et tu te souviens, j'ai été en octobre aux États-Unis à ce moment-là. Donc, ça battait son plein, t'imagines bien. Je crois que c'était un mois plus... Je ne sais pas, c'était pas un mois plus tard, les élections.
Bah, j'imagine bien, j'étais là. Oui.
Mais donc, c'était juste avant les élections. Et c'est le moment où j'ai vu Twitter sur place. Et le Twitter qui était infesté de pubs.
Ouais.
Et je t'ai dit que ça m'avait vraiment... Ça m'avait donné vraiment, vraiment envie de vomir. Infesté de pubs et de... fake, et beaucoup d'IA aussi, beaucoup de trucs de genre...
De bots, ouais.
De bots, mais d'IA aussi avec des... Genre le président qui tout d'un coup devient une espèce de super, super baudruche et tout, enfin, qui tu sais. Et vraiment, à 99%, où que tu sois, même si t'étais à New York, qui est plutôt un État démocrate, c'était infesté de pubs dont je ne voulais pas les voir et je les avais quand même. Et c'est ce moment-là où je me suis... Enfin, on avait déjà eu quelques pistes, mais je me suis rendu compte de l'aspect négatif de Twitter. Enfin, le fait que Twitter était mort et que maintenant, ça allait être plus qu'être un machin à Musk. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je vais arrêter Twitter, en fait. Et qu'à partir de là, je n'ai plus qu'à être spectateur. En semi-massenturement, on est obligé de le garder parce que les Japonais n'ont pas arrêté Twitter. Les Japonais ils le gardent parce que par pure habitude et puis parce qu'ils sont moins choqués par les autres, par les trucs en IA. Enfin, peut-être il y a moins de...
Ils ont toujours eu un rapport au nazisme un peu particulier, les Japonais, donc ça les choque moins.
Moi, je m'oserais pas faire des vannes comme ça, mais oui. Mais le truc, c'est que c'est... Ouais, en tout cas, pour les artistes japonais et tout ça, et pour veiller un peu sur ce qu'ils font faire de la veille, je le garde quand même pour le lire de temps en temps, jusqu'à maintenant. Et j'ai arrêté Twitter et je suis passé au Blue Sky, et là, j'entame une nouvelle étape dans ma consommation de réseaux sociaux. J'ai décidé de limiter, de mettre un frein très net à ma consommation de réseaux sociaux. Alors, je le dis maintenant, mais ça fait comme si je m'engageais, tu vois, et puis ça n'engage que moi, hein, parce que personne ne va aller vérifier que si je squatte un truc ou pas, c'est juste par rapport à moi. Et quand je dis réseau social, c'est tout sauf YouTube, parce que YouTube, ça reste du travail pour nous. Mais après, consommation de YouTube, tu consommes des vidéos, c'est une autre
bah, YouTube, si tu te contentes de regarder quelques chaînes auxquelles tu es abonné, ouais, que tu ne suis pas les recommandations de l'algo,
et que tu fais pas les shorts, quoi.
Tu te cantonnes à ça, c'est pas... Au final, l'aspect social n'est pas énorme, quoi. Tu te contentes juste de t'en servir comme d'un flux vidéo, quoi.
Mais par contre, sur TikTok, Instagram... TikTok, je suis obligé de regarder, je suis obligé de l'utiliser pour le taf, puisqu'on a une chaîne TikTok soumise à scène et moi-même, qu'on essaye on essaye de les faire évoluer. Mais donc, du coup, tu es obligé d'un petit peu consommer quand même pour ensuite en parler.
Pour voir ce qui buzz.
Et surtout... pour voir ce que toi, tu peux faire de différent, surtout pas forcément ce qui buzz. Moi, on me demanderait de faire ce qui buzz, mais moi, je ferais jamais ce qu'il faut. Tu sais quoi? Cette semaine, sous ma ceinture monde, on a sorti une vidéo.
Ah, mais je sais, j'allais en parler.
Bah écoute, on a sorti une vidéo. Ernest Evans, si tu veux parler d'Ernest Evans.
Mais... Alors, il y a une compilation, donc Ernest Evans, qui est sortie sur Steam et sur Switch, c'est ça?
Ouais, exactement.
Et alors, c'est très drôle que la compilation s'appelle Ernest Evans, parce que c'est un jeu sur les trois dans lesquels il y a Ernest Evans, quand même.
C'est le pire jeu.
C'est peut-être le pire des trois. C'est donc trois jeux de la Wolf Team, deux sur Mega CD, un sur Mega Drive, sauf aux US où il y en a eu deux sur Mega Drive et un sur Mega CD. Non, un qui n'est jamais sorti, en fait. Enfin bref, donc il s'agit des jeux El Viento, Ernest Evans et Annette Returns, donc Annette Futatabi. Et El Viento, qui est un jeu que j'ai fait moi l'année dernière, parce que j'avais l'intention de découvrir la trilogie. J'ai fait El Viento en entier, et alors on peut le dire, c'est de loin le meilleur des trois jeux, hein, El Viento.
Oh oui, largement, largement.
C'est un jeu d'action, plateforme, qui rappelle un peu Shinobi. Et déjà, El Viento, les derniers niveaux, c'est très compliqué. Hein. Les derniers niveaux, tu te fais... harcelé par des chauves-souris, mais genre qui arrivent par grappes et qui te déglinguent et tu vois ta vie descendre alors que tu peux rien faire, c'était absolument insupportable. Et alors Ernest Evans, c'est...
Indiana Jones.
Imaginez un jeu de plateforme dont le personnage principal, c'est Quap. où t'as les membres du personnage sont animés indépendamment les uns des autres. Et alors la maniabilité, et je tiens à saluer, à tirer mon chapeau à Daniel, qui en 10 minutes pendant le Sumimasen Combo est allé plus loin que je ne suis jamais allé à Ernest Evans. Moi, je me perds dans le premier niveau. Lui, il est allé comme ça, la fleur au fusil, et boum, il a battu le boss. Ensuite, deuxième niveau, boum, il a battu le boss. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était très impressionnant.
Mais d'abord, j'y ai joué...
T'as eu une vista pendant ce combo.
J'y ai joué il y a 30 ans et j'ai eu de la vista. Mmh. Écoute, parfois, il y a de la vista qui fonctionne.
Ouais.
Je te remercie, j'en reparlerai à ce message ou au moins dans les Director's Cut pour les abonnés.
Et moi, Ernest Evans, tu vois, au bout d'une demi-heure, j'ai abandonné pour ne jamais y revenir. Alors, ça m'a donné envie de peut-être leur donner une chance, ne serait-ce que pour découvrir Annette Futatabi derrière, qui arrête d'être un beat'em up tout éclaté au sol.
Tu vois, on a une chaîne qui fait une vidéo comme ça, alors que tu vois, personne ne l'a demandé, cette vidéo.
Ah, ça, je te confirme, personne ne voulait voir ça.
Et personne ne l'a demandé, et nous, on était là, et tous les trois, en plus, hein, vraiment.
Ouais. Chacun en plus, ouais, c'est pas souvent, vous êtes trois sur un combo, donc...
C'est vrai, c'est pas souvent, mais on
sent qu'un Greg, il se déplace pour les grandes occasions. Hein.
Ouais, Greg, il est là pour les gros jeux, quoi.
La Wolf Team, c'est parti, il est là.
Ouais, la Wolf Team, on est à fond avec les musiques à balles et tout. Et les musiques sont super. Et en plus, artistiquement, les trois jeux sont pas nuls non plus, il y a quand même...
Bah, il y a des bons trucs, parce que visuellement, les graphismes, ils se défendent, surtout sur El Viento. La musique, c'est Sakuraba, donc vraiment, parce que oui, pour les gens qui connaissent pas, en fait, la Wolf Team derrière... Globalement, c'est les gens qui, derrière, vont faire les Tales of pour Namco, quoi. Donc, c'est pas des manches. C'est juste que là-dessus, ils expérimentaient beaucoup, en fait.
Ils vont faire les Tales of pour Namco, ils vont faire les Star Ocean de l'autre partie de la team. La team va faire Star Ocean. J'en reviens peut-être aux réseaux sociaux. Donc,
ouais.
Basta les réseaux sociaux. Ou plutôt basta, très limité. J'ai mis un limiteur. Voilà. Et à partir du moment où t'as le truc qui devient tout noir, genre... À ce moment-là, tu sais, l'icône devient noire. À partir du moment où l'icône devient noire, t'as plus de scrupules à déclencher le truc.
Mmh.
Tu vas pas le faire comme ça, gratos, quoi. Il faut qu'il y ait une vraie raison, un DM ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, il faut qu'il y ait une vraie raison. Et depuis que je tente ça, c'est-à-dire depuis deux semaines très activement, je me sens vraiment mieux et j'ai l'impression que mon cerveau est moins accaparé par de la merde.
Mmh.
Alors, tu sais, t'as peut-être entendu parler, en France, ils veulent, je sais pas comment ils veulent, mais ils veulent interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans.
J'ai vu passer, oui, je vois pas comment ça va résoudre quoi que ce soit.
Alors, moi, je suis contre une interdiction pure et simple parce que moi, je suis partisan de l'éducation. Moi. Mmh. C'est-à-dire que je suis pour donner des cours de réseaux sociaux à l'école, apprendre aux enfants, parce que c'est le but aussi de l'école, parce que ça peut être les parents, mais c'est aussi le but de l'école d'aider les parents là-dedans, c'est d'aider les enfants à apprendre à, par exemple, pas échanger sa photo avec un inconnu, pas parler avec des inconnus sans preuve, genre vraiment pas donner d'informations vitales. Il y a plein de choses très importantes de la vie qu'il faut savoir dans les réseaux sociaux. Comment réagir si jamais tu te fais bully par Internet, ça peut te plonger dans le désespoir et la dépression, enfin ce genre de choses. Donc vraiment, et surtout quand on parle de jeunes enfants, quoi.
Ouais, il y a toute une éducation au numérique à faire, oui, c'est sûr.
Et moi, je suis partisan d'une éducation numérique. Personne n'a proposé ça en France. Personne. Et moi, je me dis, mais c'est vraiment, on se défile, en fait. Parce que Si les jeunes, ils veulent péter la barrière, ils le feront. Enfin, je veux dire, ils trouveront 10 milliards de moyens de le faire.
Dans un premier temps, ça va faire exploser les demandes de VPN. Mais a priori, les VPN, ils sont dans le collimateur du gouvernement derrière. Alors là, il y a plein de YouTubeurs qui vont pas être contents, je pense.
Mais moi, je serais pas content parce que je peux pas télécharger... Là, je viens de trouver XOR en russe, si tu veux. Et comment je vais faire pour récupérer XOR en russe si j'ai pas mon VPN? Voilà. Donc... Moi, si je peux ne plus voir toutes ces merdes d'IA, c'est parce qu'en plus t'en as plein sur Instagram et même sur YouTube. Hein.
Ah oui, mais c'est un enfer. T'en as plein partout. Hein.
C'est les mecs qui se croient malins. C'est genre le mec qui passe. Ça, c'est le pire. Hein. C'est pour moi la pire des vidéos IA que j'ai vues. C'est le mec qui défile sur un faux making of de Dragon Ball Z avec des acteurs live et il passe d'un acteur à l'autre. Genre en mode selfie. Et là, avant de me connecter, j'ai vu un gamin qui passe de De Gaulle. Il passe de De Gaulle à Mitterrand, à Mitterrand en IA, tu vois. Genre, chaque seconde, il fait un selfie avec Mitterrand, il fait un selfie avec Pompidou. Et vraiment, j'ai envie de dire, mais c'est nul. C'est vraiment que c'est nul. Le mec, il a fait deux prompts sur un truc et il obtient ça et il est tout fier. Je trouve ça naze, quoi. C'est vraiment... L'IA me débecte. Mais je suis pas sûr que faire un simple logo, un simple label, c'est fait sans IA fonctionnerait quoi. Vraiment, cette manière d'utiliser l'IA est vraiment dégueulasse quoi. Donc, si je peux ne plus en voir.
Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'IA, si elle est acceptée par le grand public, parce que c'est good enough, comme on dit, malheureusement, on va s'en bouffer à dents. Enfin, j'imagine que tu as vu le dernier projet de Darren Aronofsky.
Ah, c'est un film entier en IA.
C'est une série entière en IA, quoi. Et le trailer est dégueulasse. C'est vraiment infect.
J'ai envie de dire, est-ce que ce sera vraiment moins pire que son dernier film? Parce qu'il y a des gens qui trouvent cette dernière merde, ils trouvent une espèce de circonstance atténuante. Moi, je trouve ça vraiment... catastrophique.
Code Stealing, t'as trouvé ça catastrophique?
Je trouve ça vraiment pas bien, quoi.
Moi, je trouve ça regardable, mais j'ai trouvé que c'est du Sugai Ritchie de la grande époque, donc...
C'est du Sugai Ritchie, et à partir du moment où la copine se fait... La première scène de la fille, elle monte ses seins. Genre, et je me suis dit, dis-moi que ce film a été écrit par un mec sans me le dire. Et à partir de la 15e minute, elle se fait fridger, comme on dit en argot. Et là, j'ai dit vraiment, et c'est plus qu'une histoire de cum débile et tout. Et le héros, il est, j'ai trouvé infect. Enfin, vraiment, je trouvais pas ça bien, quoi. Vraiment, et... Il y a peut-être les gangsters yiddish, ils sont peut-être un peu rigolos quoi, mais ça vaut pas, c'est de la perte. Mais bon, au moins un film sur un film qui n'est pas dans les 10 ou 11 nominations aux Oscars.
Oui, lui il y est pas, lui c'est curieux. Hein.
Ouais, mais franchement, à toutes les nominations. Attends, tu sais quoi, ça serait pas con de regarder Oscar nomination. On n'a pas préparé hein. Tu sais quelles sont les nominations d'après toi? Tu peux m'en dire, tu peux me dire 5 nominations.
De quoi? Pour meilleur film?
Ouais.
Alors il y a Sinners.
Ouais.
je sais pas.
Il y en a 10.
Il y en a 10. Ouais. Alors attends, réfléchissons donc.
Tu dois m'en trouver 5.
Je dois t'en trouver 5. Ok, alors.
Je triche pas. Hein.
Non. Alors, donc il y a Sinners, ça c'est sûr.
Ouais.
Alors attends, je réfléchis. Il y a quoi d'autre qui est sorti qui pourrait être un film à Oscar?
Il y a deux films étrangers.
Ah bah il y a le PTA. Il y a forcément.
One Battle After Another.
Ok, donc ok, j'en ai deux.
Et il y a deux films étrangers.
Il y a deux films étrangers, ok.
Un film qu'on a classé en blockbuster. À part Sinners.
Un film blockbuster à part Sinners.
Il y en a même deux presque.
Qu'on a bien classé. À part PTA, parce que PTA aussi on l'a.
Ouais. Ouais, c'est les trois.
Qui était moyen.
Ah, pour l'instant, t'as Sinners et One Battle After Another.
J'ai Sinners et PTA, ouais, c'est tout ce que j'ai.
C'est pas ouf, hein, franchement.
J'en ai deux. Franchement.
Bon, allez, je vais t'aider.
Attends, si, le Chloé Zhao, Hamnet.
Hamnet, 3, bien.
Ok, 3, ouais.
Il y a tout sauf Zootopie. C'est quoi?
Ils sont oui, bah, c'est normal, c'est un film d'animation, ça sera pas dans le meilleur film.
Mais non, Zootopie, il aurait pu y passer parce que les dernières années, ils ouvraient le truc au CG aussi.
Ouais, mais film d'animation, c'est ça, sa catégorie à part, donc ça sera jamais dans Best Pictures.
Ouais, mais ils essayaient quand même.
Bon, bah, je sais pas, vas-y, dis-moi.
Alors, je t'aide. Un film de Guillermo del Toro qui s'appelle Frankenstein.
Ah, Frankenstein, ouais.
Donc, Frankenstein.
Mais attends, c'est un film Netflix, ça, non?
Ouais.
Ouais, ok. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu.
Attention, un blockbuster. Il y a F1.
Attends, F1 est nommé? Non, mais sans déconner.
How the hell F1 est tombé dans les...
c'est pas possible.
C'est vraiment pour les copains. Il y a Train Dreams.
J'ai jamais entendu parler.
Moi, je t'avoue que ça ne me dit rien. Je suis sûr que je vais cliquer dessus. Je vais y penser. C'est avec Joel Egerton, Felicity Jones. Voilà, je sais pas. Je sais même pas si c'est sorti. C'est sorti le 21 novembre. Sur Netflix?
Ah bah pas vu, donc bah oui, j'ai pas Netflix. Donc.
Ah bon, bah écoute, je faut que je le voie hein, pour être à jour.
Ouais, non, j'ai annulé Netflix l'année dernière, donc.
Alors écoute, il y a encore Sentimental Value.
Attends, c'est pas le film avec si putain, oui, j'en ai entendu parler.
Ah bah oui, j'espère que t'as entendu parler.
Alors je l'ai pas vu. Il y a, en fait, j'en
avec Renate Remse et Elle Fanning.
Bah surtout, j'en ai entendu parler parce que le réalisateur était au Daily Show interviewé, donc sinon j'en entendais pas parler.
Ah ouais, c'est vrai.
Ah oui, oui.
Non, c'est Joachim Trier.
Oui, oui.
Ah oui, tu veux dire l'écho, la boîte d'écho américaine. Ouais,
personne n'en parle ici, donc.
Ouais, c'est quand même un film important de l'année, même si c'était pas. Ouais, si
j'ai... Mais effectivement, sur notre Discord, j'ai vu des gens en parler, mais j'avais pas fait la connexion parce que.
Il y a Bugonia.
Ah oui, l'Antimos. Ouais, je l'ai pas vu celui-là.
L'Antimos. Remake d'un film coréen.
D'accord.
Et il nous en reste encore deux. Et il y a The Secret Agent qui est le.
Ah ben bah, il y avait d'accord oui l'acteur principal était aussi invité au Daily Show.
Je te raconterai un truc sur The Secret Agent. Et Marty Suprême.
Ah le truc de Chalamet
ouais.
Par le mauvais frère Safdie.
Ah non il paraît que c'est celui le bon frère Safdie.
Bah non je crois que celui-là c'est celui qui est dans la sauce à cause d'une histoire de harcèlement.
Ok parce que moi je pensais que c'était le bon en termes talent.
Ah ou en termes talent je sais pas mais tu sais Smashing Machine il a pas marché mais il avait pas des mauvaises critiques de même.
Non non plus ouais. Et voilà. Alors, pour Secret Agent, il y a des mecs qui m'ont dit le mec il te ressemble un peu, l'acteur. Alors c'est pas pour me vanter, il est plutôt beau gosse. Alors c'est pas.
Ouais, bah c'est.
Mais tu sais, les mecs en général, c'est un mec un peu avec du poil sur le torse.
Et c'est Wagner Moura qui était dans dans Civil War.
Qui était dans Civil War. Personne me l'a dit pour Civil War d'ailleurs. Je tiens à vous dire. Ils m'ont dit pour celui-là. Et tu sais quoi? Et moi j'aurais dit non, il y a un problème. C'est pas WAM du tout. C'est que pendant tout le film, le mec ressemble énormément à mon père.
Ah.
Et pendant tout le film, j'étais là, genre, je suis gêné par cette ressemblance. Et c'était très, 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 très. Et en plus, c'est un film qui parle un chouïa de paternité. J'étais en train de me dire, mais ok, d'accord, je suis pas mal à l'aise avec ce film. Et du coup, je suis un peu passé à côté à cause de ça aussi.
Donc, le bif sur Marty Suprême, donc c'est que c'est réalisé par Josh Safdie. Et tu sais que les Safdie, ils réalisaient ensemble avant, c'était les Safdie Brothers.
Mmh.
Et qu'ils ont splitté, en fait, parce que sur le tournage d'un de leurs films, globalement, une scène que Josh réalisait, il y avait une scène de sexe avec, je crois, une mineure.
Ah oui, et que l'un savait, l'autre pas.
L'un savait, l'autre pas.
Et l'autre ne lui a pas dit.
Voilà, qu'il y a le producteur qui a déjà été accusé en plus de plusieurs problèmes, qui était l'ex-mari de Emily Ratajkowski, me semble-t-il. Enfin bref, le producteur et le réal, donc le réal c'était Josh Safdie, tous les deux dans la sauce à cause de ça, parce que bah oui, une scène de sexe avec une gamine de 17 ans, c'est chaud quoi.
Ouais.
Et donc, ils ont splitté les deux frères.
Ils ont splitté, ouais. Et c'est sans doute à cause de. Sans doute ce que j'ai entendu, la même chose à cause de ça.
Et a priori, c'est à cause de ça.
Je pense qu'en voyant tout ça, je pense que c'est Sinners, c'est son année.
Ah, j'espère.
Je pense que là, normalement, tout est ouvert, mais il y a le PTA, mais je pense que le PTA est trop politique pour gagner.
Ah, faut voir. Après, c'est pas souvent que j'ai vu aussi peu des films nommés. Faudrait que j'essaie de rattraper ça parce que.
Ah, je suis à la petite moitié, quoi.
Bah, j'en ai vu que trois, du coup.
Et alors, je peux dire que j'ai dormi à l'un d'eux, mais je dis pas lequel.
Le bois ne rend pas les coups.
Et voilà, ça fait un gros podcast. Allez, c'est quoi ta reco? Alors, je suis sûr que
le pire c'est que les gens vont pas nous croire. On avait vraiment préparé des sujets, des trucs dont on voulait parler, et depuis 25 minutes, on fait toute autre chose.
Benji. Je suis sûr que tu veux nous faire une Weapons.
C'est-à-dire ?
Qu'est-ce que faire une Weapons ? C'est de nous annoncer qu'il y a un super film ou un film que tu as vu en avance et qui va sortir bientôt. Et que, pour une fois, je n'ai pas vu en Projo Press, T'as un ou deux films que t'as vu qui vont bientôt sortir et qui auraient pu être nommés d'ailleurs.
C'est vrai que j'ai vu,
puisque tout peut être nommé maintenant.
J'ai vu deux films qui ne sont pas encore sortis en France. Alors il y en a un qui sort dans 10 jours.
Mm-hmm.
C'est le premier dont je vais parler. C'est Send Help de Sam Raimi que j'ai beaucoup aimé.
Mm-hmm.
Qui n'est pas un film d'horreur à proprement parler. C'est plus un thriller psychologique avec quelques scènes un peu horrifiques, un peu gore. Et puis un ou deux jumpscares. Mais donc, qu'est-ce que c'est Send Help pour les gens qui n'ont pas vu le trailer? C'est l'histoire de Linda Liddle, qui est une employée dévouée du département stratégie et planning d'une grosse boîte dont je ne suis pas certain d'avoir complètement compris ce que faisait cette grosse boîte, mais c'est vraiment la grosse boîte. Et Linda Liddle, elle a été promise à un poste de vice-présidente parce que elle faisait un travail phénoménal. Sauf que le boss de la boîte décède. Et qui hérite de la boîte, c'est son fils qui est un nepo baby absolu, qui est un espèce d'immonde connard dont les potes sont des tocards de tech bros ou de finance bros, qui donc héritent de postes à responsabilité, n'en branle pas une, c'est Linda qui fait tout le travail et eux qui récoltent les lauriers. Et donc évidemment, Linda le vit un peu mal, et lors d'un trajet pour aller à Bangkok pour une fusion-acquisition, Linda fait partie du voyage, les finance bros et le boss se foutent de sa gueule, sauf que accident de mi-parcours, il y a un gros problème lors d'un orage, l'avion s'écrase et les deux seuls survivants, c'est Linda et c'est donc son boss. Et un des trucs qui ont fait que les tech bros, les finance bros se foutaient de Linda, c'est que ils sont tombés sur sa cassette d'audition pour participer à Survivor. Alors, Linda, outre le fait d'être débraillée, un petit peu vieille fille et qui se fout de sa gueule, elle sait se démerder dans des situations extrêmes. Et c'est là qu'est tout le sel du film, c'est que d'un coup, le rapport de force s'inverse, que le nepo baby de boss est complètement incapable de faire quoi que ce soit sur une île déserte, surtout qu'en plus, il s'est cassé une jambe, alors qu'elle, elle se démerde, elle va à la pêche, elle va à la chasse, et elle sait construire un abri et tout le bazar. Et c'est évidemment tout le sel du film, c'est que ce rapport de force inversé, lui, il va très très mal le vivre et qu'elle, elle va essayer d'en profiter un maximum. Donc c'est hyper drôle. Il y a plein de scènes où franchement, mais j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. C'est très jouissif de voir un type pareil s'en prendre plein la gueule. Et puis, c'est déjà magnifiquement interprété. Honnêtement, alors c'est Rachel McAdams qui incarne Linda Liddle. Alors, si comme moi, tu as un crush sur Rachel McAdams depuis Mean Girls, tu vas être servi. Dylan O'Brien, qui joue le boss, est aussi formidable. Vraiment, il sait très très bien jouer le gros connard qu'on adore détester. Et puis, tous les deux, ils vont se faire des crasses. Et puis, ils vont se réconcilier. Et en fait, non. Et en fait, si. Et c'est vraiment super chouette. Et donc, c'est réalisé par Sam Raimi, qui n'a rien perdu de sa superbe. Moi, je trouve qu'il est vraiment... il est tranquille, il est aux commandes, il sait ce qu'il fait. C'est de fort belles factures. Et vraiment, j'ai passé un très, très bon moment. Je me suis jamais ennuyé. Vraiment, super chouette film. J'ai passé vraiment, je l'aurais dit, un super moment. Je le recommande.
Il sort la semaine prochaine en France, je crois.
Il sort dans 10 jours, ouais. Ça aurait pu être ma reco. Mais j'ai une autre reco. Et sinon, donc, l'autre film que j'ai vu il y a encore plus longtemps, mais qui sort en France à la fin du mois de février, qui s'appelle Is This Thing On, qui est réalisé par Bradley Cooper.
Fin février, ouais, exactement.
Ouais. Réalisé par Bradley Cooper. Et dans les rôles principaux, on a Laura Dern et Will Arnett. Will Arnett, que j'adore, qui est notamment connu pour son rôle de Job. Dans Arrested Development, Job Bluth.
Moi, je le connais pour une autre raison. C'est parce que c'est surtout lui qui fait BoJack Horseman.
C'est lui la voix de BoJack Horseman, tout à fait.
Mm-hmm.
Et puis Laura Dern, fille de Bruce Dern, et puis la mémorable Ellie Sattler de Jurassic Park. Et puis bon, elle a fait d'autres trucs, Laura Dern, quand même. Mais là, donc, il joue un couple qui vient de se séparer, tous les deux. Et lui, le vit pas super bien, la séparation. Et ils sont en instance de divorce et il va dans un bar et en fait il faut payer je sais plus $5 pour rentrer dans le bar, ce qui arrive dans certains établissements où t'as ce qui s'appelle une cover charge. Alors de temps en temps ça vient avec une boisson, de temps en temps non, tu payes juste pour rentrer. Et pour éviter cette cover charge, parce que c'est un bar où il y a du stand-up, il s'inscrit en tant que stand-upper et il y va et il improvise et en fait ça lui plaît. Et du coup, bah, il devient un régulier de ce bar où il y a donc des comédiens qui viennent faire du stand-up. Et donc, le film raconte ça, raconte comment il arrive à gérer la petite dépression qu'il est en train de se faire et puis sa séparation en faisant du stand-up et en racontant sa vie.
Mais c'est ça me rappelle une série, là. Miss Maisel. C'est Miss Maisel aussi, c'est la même chose.
Alors, c'est vrai que c'est un petit peu...
Une séparation, une dépression, et il monte sur scène, et la magie du stand-up, elle est méga drôle, en fait.
Alors, c'est effectivement, ça ressemble beaucoup à Miss Maisel. C'est basé sur une histoire vraie, un comédien anglais qui s'appelle John Bishop, qui donc lui aussi était en pleine séparation avec son épouse, et puis s'est mis au stand-up, exactement pour les mêmes raisons, en fait. Il ne voulait pas payer l'entrée du bar. Donc voilà, écoute, moi j'ai bien aimé Is This Thing On. Alors c'est pas forcément la comédie où tu vas te marrer du début à la fin. Il y a des passages assez drôles, il y a des passages un peu durs, mais c'est super intéressant en fait dans son traitement de comment chacun gère la séparation. Et puis petit spoiler, il y a un moment où elle se retrouve dans le bar où il est en train de jouer alors qu'elle le savait pas qu'il allait faire partie des comédiens. Et ensuite, on voit ce qui se déroule par la suite. Donc, il y a un petit côté rom-com aussi. Ils appellent ça une comédie de remariage, Is This Thing On, qui donc suit à peu près les mêmes codes qu'une rom-com, sauf qu'à la base, les comédiens étaient ensemble au début, quoi.
D'accord.
Donc voilà, Is This Thing On, réalisé par Bradley Cooper. Bradley Cooper qui a un petit rôle, qui est assez drôle d'ailleurs, parce qu'il a, en fait, son rôle à Bradley Cooper, c'est limite une espèce de tocard, donc c'est assez rigolo. Moi, j'ai passé un bon moment devant.
Pauvre Bradley Cooper qui en fait des tonnes en ce moment pour essayer d'avoir des Oscars. Où tu sens qu'il est en train d'essayer d'avoir son... Il rampe, il y va à fond, mais... Écoute, il m'est très sympathique. Je ne sais pas si...
Moi,
encore un film sur la difficulté d'être un artiste, je ne sais pas.
Moi, je ne suis vraiment pas persuadé que ce film-là ait la moindre chance d'être nommé pour un Oscar parce que c'est vraiment un petit projet.
Ah non, mais là c'est sûr, puisqu'il y avait la place pour un 12e, hein. 11e, 12e, on aurait pu, hein, mais...
Non, mais je pense vraiment pas que ça a été l'objectif de base. Hein. Pour moi, c'est trop low-key pour pouvoir y prétendre. Genre, A Star Is Born, oui, mais là, non. Non, vraiment, je pense pas.
Après, tu es un monstre d'ambition, hein, tu sais jamais.
Hein. Oui, c'est vrai.
Benji, est-ce qu'on passe à nos recos ?
Ah bah, écoute, moi, j'ai encore des trucs à dire. Hein.
Attends, vas-y, balance.
Mais attends, mais parce que j'ai... en fait, j'ai fait un break sur Hades 2, parce que j'en avais marre, et donc, j'ai voulu jouer à autre chose. Et j'ai joué à ce jeu qui était dans mon backlog depuis très longtemps. J'ai joué à Hokuto ga Gotoku, qui s'appelle, dans la langue de Shakespeare, Feast of the North Star Lost Paradise. Et oui, le paradis perdu de Ken le survivant, puisque c'est donc cette espèce de mix improbable entre la série Yakuza, donc Like a Dragon, et Ken le survivant, que tu as testé pour Gamekult d'ailleurs, puisque j'ai consulté ton test.
Je l'ai défoncé.
Et moi j'y ai enfin joué, je l'avais chopé genre à...
Ouais, j'ai défoncé, je l'ai noté à sa juste valeur.
Moi je l'avais chopé je crois à $5, ce qui est globalement le prix je pense qu'il faut mettre pour ce jeu. Et alors, dans les bons points, je dirais qu'il est assez court, plus court qu'un jeu Yakuza classique, et c'est pas plus mal. Dans les mauvais points, il y a quand même beaucoup d'autres trucs. Globalement, c'est pas GG. Alors, il y a encore des quêtes qui sont assez rigolotes. Il y a encore le décalage entre le personnage de Kenshiro qui, comme le serait Kiryu, est d'un sérieux absolu, même lorsqu'il fait des quêtes qui sont complètement débilous, ridicules. Il y a donc pas mal de quêtes secondaires qui sont, rigolotes, un peu idiotes. Mais le reste, qu'est-ce que ça fonctionne pas? Alors, la principale nouveauté de ce jeu, c'est que t'as toute une sorte d'open world un peu rikiki autour de la ville centrale.
Avec ta petite voiture.
Avec ton petit buggy. Et c'est nul! C'est d'une mocheté. Déjà, c'est des graphismes niveau PS2 qu'on détecte à l'extérieur. C'est vraiment très très moche, c'est très très vide. Et en plus, sorti de 2-3 missions, on te dit, bon bah, faut que t'ailles là pour parler à tel mec ou faut que t'ailles là pour visiter tel village. T'as globalement pas grand-chose à y faire. Alors, t'es censé récupérer des pièces détachées pour pouvoir faire évoluer ton buggy. Moi, globalement, à part les deux trucs que j'étais obligé de faire évoluer pour pouvoir faire une mission, j'ai jamais réussi à faire évoluer mon buggy. Moi, à chaque fois, j'avais beau avoir les pièces, on me disait non, vous pouvez pas faire évoluer votre buggy à ce moment. Donc, j'ai absolument pas compris comment ça marche.
Je me souviens que c'était naze. En fait, je pense qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans le jeu, c'est qu'en fait, ils ont essayé de coller l'histoire de Ryuga Gotoku sur Ken. Donc ça veut dire qu'ils ont essayé de trouver des équivalences entre Toki et le lore de Ryuga Gotoku, entre tous les personnages de Hokuto de Ken, entre Rei Et ça fonctionne pas, en fait. Il y a le mix ne marche pas, quoi.
Il y a Ray qui est là, puis ensuite il est plus là.
Ouais.
Il vient, puis il repart. Tu tapes avec, au lieu de discuter, tu sais. Non, on se tape, et puis ensuite on repart.
C'est vraiment pas bien, quoi.
Dans les trucs un peu sympas, quand tu pars dans le Wasteland, de temps en temps, t'as des cartes au trésor qui te permettent de récupérer des objets un petit peu spéciaux. Et donc parmi eux, il y a des bandes d'arcade. Donc, comme d'habitude, on a accès à des bandes d'arcade. Sauf que là, ils ont vraiment focus sur des jeux très très vieux. Donc, on peut débloquer Outrun, Space Harrier et Super Hang-On.
Qu'on a sans doute eu déjà dans quelque part ailleurs.
Peut-être. Un UFO Catcher. Mais le truc qu'on n'avait jamais eu ailleurs, et ça, j'étais un peu surpris, on peut débloquer une Sega Mark III, donc une Master System, avec le jeu au couteau Noken de l'époque, qui donc chez nous était connu en tant que Black Belt.
Je crois que depuis, ils l'ont fait dans... Judge Eyes.
Dans Judgment.
Ouais.
Alors, parce que dans le premier Judgment, il n'y a pas de Master System, ça, non, c'est
dans
sûr.
Le deuxième, dans le deuxième, ils dans ont le deuxième. Un bureau et ils ont une Master System.
D'accord. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que, au final, du coup, ce Okuto Gagotoku, il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est la première fois que Sega reconnaît l'existence de la Master System dans son histoire, parce que jusqu'ici, toutes les compilations rétro, toutes les ressorties, tous les jeux bonus que tu pouvais avoir, c'était tout le temps Mega Drive ou après.
Bah ouais, ouais.
Il n'y avait jamais eu de jeu Master System, j'ai jamais compris pourquoi.
Écoute, là, il est trop tôt pour en parler parce qu'il n'est pas sorti, mais il sortira la semaine d'après. Mais tu sais qu'il y a Ryuga Gotoku 3 qui ressort en version Kiwami.
Ouais, il y a Kiwami 3 qui sort. Et honnêtement, je ne suis pas forcément super emballé parce que je n'ai pas vraiment aimé le 3. En fait.
Écoute, on en reparlera bientôt. Mais,
ouais.
Mais je peux te dire un truc, c'est qu'ils l'ont annoncé, il y a... les jeux Game Gear pour la première fois.
Ah.
Vraiment, ils essayent de faire ce leur possible pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Quoi.
Mais autant la Game Gear, il y avait eu les Game Gear Mini, tu sais, qui étaient sortis, ouais. Qui étaient vraiment toutes petites. Mais la Master System, il n'y a jamais rien eu. Quoi. Je trouve ça complètement fou. Ils ont toute une ludothèque de jeux, de trucs qui sont vraiment, au final, assez méconnus parce qu'ils ne les ont jamais ressortis. Alors qu'il y a des trucs intéressants sur Master, je ne comprends pas.
Bah après, tu peux jouer à Phantasy Star 1 sur Switch. Hein, c'est pas...
Oui, bien sûr, oui. Mais tu vois, des trucs comme... ça y est, j'ai déjà oublié comment il s'appelle. Il y a une sorte de Castlevania de la Master System auquel j'ai joué il y a genre 2 ans, qui est vraiment super, qui est un jeu Sega.
Spellcaster ?
Non, c'est pas Spellcaster. Je retrouverai le nom.
Mais
Spellcaster est un bon exemple de jeu qui mériterait.
Mystic Defender ?
Non, c'est pas Mystic Defender. Non, c'est vraiment un Castlevania. Tu joues dans Londres et tu fais une chasse aux vampires. Mais je vais te retrouver ça.
Bon, écoute, en tout cas, tous ces jeux-là, au moins, on peut dire un truc, c'est qu'ils ont à chaque fois un nouveau cheptel de jeux, à chaque fois plus méconnus les uns que les autres. Je crois que ceux sur Ryuga Gotoku 3, Kiwami, il y a des trucs nouveaux, comme le jeu d'ambulance, là, récent de ces gars.
Récent, parce qu'il y avait un jeu...
Enfin, récent, moins de 20 ans. Quoi.
Ouais, il y avait un jeu Model 3 d'ambulance, c'est celui-là. Ouais, c'est Master of Darkness, le jeu Master System, qui est une sorte de Castlevania et qui est super. Et puis les jeux, alors je sais pas s'il faudrait qu'ils repayent des droits, mais les Castle of Illusion, Land of Illusion sur Master System, ils étaient super.
ça c'est fini, tu les auras plus. Ah non, voilà. Ah,
tu sais pas.
Hein. De travailler avec Disney, Japon, qui possède les droits de tous les jeux, j'ai ouï dire que c'est très compliqué.
Bah, écoute,
et c'est la preuve que Kingdom Hearts prend énormément de temps. Je pense que c'est parce que c'est pas un jeu Square Enix, c'est un jeu Disney Japon.
Mais ils ont annoncé aujourd'hui que la Disney Afternoon Collection ressortait avec 2 jeux bonus, donc on sait jamais. Hein.
Ouais, on sait jamais. Benji, maintenant que tu as dit ça et que tu as lancé ta balle en l'air pour... T'as remis la balle en jeu, comme on dit, pour Ryuga Gotoku, moi je vais refaire la même chose. Je vais parler d'un film, que les gens attendent notre avis dessus. Et j'espère que tu vas pouvoir le voir quand il sera classé dans les blockbusters.
C'est Mélania ?
Non.
D'accord.
C'est un autre. Oh putain, j'ai oublié ça. C'est un authentique blockbuster français, réalisé par Philippe Lachaud.
Oh putain.
Qui s'appelle Marsupilami. Est-ce que tu es d'accord pour le classer dans les blockbusters ?
Parce que c'est quoi le budget ?
Je pense que ça doit être un 50 millions.
Ouais, pour la France, c'est un blockbuster. Hein.
Ouais. Et en plus, ça va être sans doute une des plus grandes audiences de l'année. Hein.
Parce que heureusement, je précise pour la France, hein, parce que sinon, Mélania, c'est 75 millions en incluant le marketing. Donc,
c'est dingo. Mais bon, non, après,
c'est Jeff Bezos
qui se... Brett Ratner en plus.
Mais oui.
Le mec qui a été méga cancel.
Le mec qui a été méga cancel pour agression sexuelle.
Ouais.
Mais c'est Jeff Bezos qui s'achète les bonnes grâces du président. C'est tout.
Ouais, évidemment. Bien, écoute, sur Marsupilami, il n'y a pas de bonne grâce du président, puisque, évidemment, c'est la bande à Fifi Donc Philippe Lachaud, Tarek Boudali, surtout Julien Rotti qui est un peu le génie de la bande, mais c'est méconnu. Mais franchement,
c'est ce que tu persistes à dire, mais j'ai toujours mes doutes là-dessus.
Non, c'est vrai que dans celui-là, il n'a pas une scène grandiose, parce que tu sais quoi, moi, si je devais te faire un top 3 des scènes de Julien Rotti dans les films de Lachaud, puis de toute manière, il joue que dans les Lachaud, ou presque, moi, je te dirais que vraiment, son corpus, il y a la scène dans Super-Héros malgré...
C'est des scènes de caca, quasiment à chaque fois, tu peux le dire.
Oui, dans Super-Héros malgré lui, il y a la scène de R caca. Il y a une scène... Oui.
Alors là, les auditeurs, écoutez Daniel être mort de rire, rien qu'en pensant à son génie Julien Rotti et au caca.
Il est défoncé. Voilà. Et du coup, il se met à chier. Il se fait un air caca.
Oui. Et moi, tu vois, je pense que si ce gars-là ne joue avec aucun autre réalisateur, il y a peut-être une bonne raison, Daniel.
Et alors, je crois que dans 3 jours max, il y a une scène où il fait un zombie walk caca. Et en fait, il est défoncé. Et je crois qu'il a gobé une abeille. Il ne peut plus parler. Et il est plein de chocolat ou de caca ou je ne sais pas quoi. Et il sort il commence à marcher comme un zombie. C'est à hurler de rire. Bon, alors malheureusement, il n'y a pas cette scène-là.
Donc, il n'y a pas de Julien Rotti au caca dans Marsupilami ?
C'est beaucoup moins Julien Rotti, en fait. Parce qu'il y a plus de Jamel Debbouze, il y a plus de Jean Reno.
Écoute, tu me dis, il y a beaucoup moins de Julien Rotti. Pour moi, ça va au-dessus d'Avatar.
Alors, par contre, malheureusement. Alors, écoute, je veux que tu. Vraiment, la plus grande idée du film, et je vais vous la spoiler parce que je sais que notre public, ce n'est pas forcément celui de Philippe Lachaud. Et donc
oui, notre public n'ira pas voir ce film, donc tu peux y aller.
Ouais. Et honnêtement, je pense que c'est pas le meilleur film du Dupuis Cinematic Universe. En tout cas,
oh, quel dommage.
Et en plus, il est hors continuité puisqu'il reprend pas Spirou, mais par contre, il s'inscrit dans la suite c'est la suite du film de Chabat.
Donc il est pas dans le même univers que Gaston Lagaffe et Spirou ?
Non, et ni Petit Spirou, mais par contre, c'est la suite du film d'Alain Chabat,
je n'ai pas vu.
Puisqu'il y a Jamel Debbouze qui revient.
Ouais. Et c'est le même personnage.
Jamel Debbouze est vraiment toned down. Hein. Vraiment, on lui a dit, t'es là, mais bon, tu laisse-nous faire les gags, les gags avec des trucs dans le cul, nous, on sait faire.
Oh putain.
Et il y a une scène, à un moment, ils doivent endormir le marsupilami. Et au lieu de lui mettre des somnifères, ils lui mettent du Viagra.
Oui, ça va l'endormir, c'est logique.
Et là, sa queue devient toute dure.
Bah oui.
Et voilà, et du coup, il se bat avec genre sabre laser, mais avec la bite du Mars, avec la queue du marsupilami. Et voilà. Et à un moment, même, je crois qu'Élodie Fontan l'utilise pour faire un saut à la perche. Voilà.
Ouais.
Voilà.
Donc, 5 étoiles sur Letterboxd, Daniel ?
Moi, j'ai mis 1,5.
Ah ouais.
Mais j'ai mis 1,5.
Combien a mis Jérôme ?
Moi, je suis 1.
Combien a mis Jérôme ?
Jérôme, il est en deux fois, je crois que c'est 3,5. Il est allé le revoir avec moi, il a mis 3.
Jérôme, il a mis 3,5, il a fait les interviews et ensuite il a mis 3.
Non, tu sais, il a senti ma lassitude à côté. Parce qu'à un moment, t'as vraiment envie de dormir parce que, en fait, il y a toujours un cap où c'est pas très tendu en fait. Tu t'ennuies un petit peu, quoi.
Pas comme la queue du marsupilami.
Moi, je veux juste pour penser aux parents qui sont venus le voir en salle, puisqu'on était en salle publique. Et donc, il y a des parents qui sont venus avec les enfants et tout ça. Et. Et il y a la bande-annonce de Nuremberg qui passe. Et j'imagine les parents en train d'expliquer. Alors, Göring.
Non mais déjà, les parents qui emmènent leurs enfants voir un film de Philippe Lachaud, ils n'ont pas vu un autre Philippe Lachaud avant ? Enfin, c'est quoi le plan ?
Tu sais quoi ? Il y a à juste titre, il y a des parents qui m'ont demandé, est-ce que je peux emmener mes enfants voir ça ? Et moi, je leur dis, en fait, les enfants, ils adorent. Ils comprennent pas du tout le coup de la selle et lui rentre dans le cul et tout. Ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas l'aspect sexuel des trucs. Ils ont pas l'aspect. Les enfants, c'est des gens purs. Ils ont pas du tout le truc.
Oui, bah comme nous avec la pipe dans Police Academy ou le fantôme dans SOS Fantôme qui retire le pantalon de Ray, on comprend pas quoi.
Oui, ouais, on comprend pas que c'est un fantôme qui fait un ghost blowjob. Faut avoir un esprit d'adulte pour devoir comprendre ce qui se passe. Comme la pipe dans Police Academy, les enfants, ils ont pas du tout ça. Et ils rigolent, mais vraiment, ils rigolent. Et ça rigole énormément parce que c'est vraiment des blagues pour enfants. Hein. Vraiment, c'est ça le public. Le seul truc, c'est que moi, je lui dis, il n'y a pas mieux. Est-ce que, même pour un truc de gag, il n'y aurait pas mieux. Genre,
à montrer à des enfants, ouais, bah oui.
Genre, c'est là où tu vois que, parce que moi, je montre les Pixar à mon fils et tout ça, le niveau des gags et le niveau de d'écriture, c'est quand même autre chose, quoi. Mm. C'est quand même autre chose. Ça nous fait relativiser les films qu'on trouve moyens après, quoi. C'était vraiment bas du front. Je pense que, mais après, il faut voir les films au cas par cas. Je pense que le, comment il s'appelle? Babysitter 1 fonctionne. Mais tu vois, si je le revoyais, que je voyais sans doute, tu sais, les blagues homophobes qu'il faisait au début.
Et je te rappelle que tu m'as vendu Babysitting 2 en me disant non, le 1 était chouette.
Et le 1 était chouette.
Et moi, je connaissais pas. C'était ma première initiation au Lashover, c'était Babysitting 2.
Avec le Brésilien qui lui tient la main, là.
Ouais.
Ouais, c'est pas ouf. Hein.
Avec le gros plan sur la bite de Vincent Dezania aussi.
Ils ont un vrai problème avec le cul quand même. C'est vraiment. Et genre, et ça revient très souvent, mais en même temps, ça fait vraiment rire les enfants, hein. Je l'ai vu de mes yeux, hein, c'est vraiment, ça fonctionne, quoi, à balle.
Bah, autant que la tub ait fait rire les enfants, je peux comprendre, mais les blagues homophobes sur le Brésilien qui tire la main du gars, enfin, je vois pas.
Je sais pas, est-ce qu'il capte ça? Je sais pas. Mais
non, je pense qu'il capte pas. Hein.
Mais même s'il capte pas, est-ce que j'ai envie de montrer ça à mon fils? Moi, à un moment, j'en parlais à Amandine, elle me dit non, c'est non. Et je lui dis, mais je suis d'accord, hein, t'as pas besoin de me convaincre. J'aimerais pas mon fils voir aucun de ces films, parce que je trouve qu'il y a un moment où le film est dégradant, ou alors si tu réfléchis à la condition du film, tu te dis mais ça, c'est comme Nicky Larson, quoi, c'est pas possible. Genre, si tu réfléchis deux secondes à le sujet du film, c'est vraiment débile, et pourtant c'est des films qui sont faits pour ça, quoi. Écoute, alors Marsupilami, j'ai noté un et demi sur Letterboxd, voilà.
D'accord.
Et si vous voulez ma review, je peux vous la faire. Elle est en trois lignes. Et là, le marsupilami gobe du Viagra et sa queue devient toute dure. Et le mec répond, génial Philippe, oublie pas les blagues de trucs dans le cul de tes potes et on est bon. Et c'est ce que m'évoque ce film, quoi. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment l'héritière de Franquin, qui paraît-il est très très à cheval sur tout ce qu'on peut faire sur l'héritage de Franquin, comment elle a accepté ça, quoi. Je comprends pas, parce qu'il paraît que c'est genre très très dur de bosser sur Marsupilami et sur même Gaston Lagaffe, et là, peut-être sur le papier c'était super bien écrit, je sais pas.
Ouais, et sur le papier tu me l'as pas vendu, hein. Je le cache pas, mais oui, c'est probablement un blockbuster, et puis rien qu'à l'idée de savoir que Stéphane va devoir se le taper, ça me... Ouais, allez, c'est parti.
On est dégueulasse.
Ou alors il va pas le regarder et nous niquer, mais on verra bien.
Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder.
Oye, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi?
Casse-toi, sale gominé.
Est-ce que, Benji, maintenant, on a fait un gros émission, là, j'ai l'impression.
Ouais, voilà. Là, on est bon.
Là, on est bon. Est-ce que Allez. Tu me fais ta reco?
Oui.
Vas-y.
Alors, ma reco, c'est une recommandation jeu vidéo, une fois de plus, un autre jeu que j'ai fait en faisant un break de Hades 2. Je vous ai dit à quel point j'aimais pas Hades 2.
Nice, tu l'as dit.
C'est un jeu qui s'appelle Pipistrello and the Cursed Yo-Yo. Alors, c'est sorti sur Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series. Donc, il y en a pour tout le monde. Et c'est un jeu d'aventure plateforme qui a été développé par un petit studio indé brésilien. Et déjà, le jeu vidéo brésilien, on en parle suffisamment peu pour que ça mérite d'être salué. C'est un jeu en pixel art qui, en fait, fait comme s'il tournait sur une sorte de console équivalent d'un Game Boy Advance. Et alors, c'est un peu rigolo parce que quand tu lances le jeu, tu peux choisir si tu veux d'afficher ou non cette console virtuelle en 3D dans ta Switch ou sur ta PS4. Mais l'intérêt de Pipistrello, c'est surtout que c'est un jeu qui, globalement, rappelle énormément des jeux comme Link's Awakening ou Minish Cap. Parce que donc, c'est un jeu de plateforme aventure, mais c'est aussi un jeu avec un scénario assez rigolo, avec des énigmes, avec des puzzles, et avec des graphismes vraiment tout choupi, avec une super musique qui vous restera dans la tête pendant longtemps, avec notamment une piste qui a été faite par Yoko Shimomura, qui était invité comme ça, qui a contribué, c'était très gentil de sa part. Et c'est un jeu qui est tout mignon, c'est un jeu qui est vraiment extrêmement facile à prendre en main, mais au fur et à mesure où tu débloques des capacités, ben, qui va demander un petit peu de pratique, alors pas forcément beaucoup de skill, hein, mais ça va demander de vraiment maîtriser les diverses capacités de ton yo-yo, puisque c'est avec un yo-yo qu'on se défend, d'où le titre. Et Pipistrello, donc, pour raconter un peu l'histoire, c'est une chauve-souris anthropomorphe qui fait partie donc, de la... Alors, la famille s'appelle Pipistrello, le personnage principal s'appelle Pipit, et la famille Pipistrello, globalement, c'est une famille de méchants. C'est une famille qui a un monopole sur tout ce qui est fourniture d'énergie à la ville locale. Donc, globalement, imaginez une famille qui posséderait ERDF et qui pourrait décider d'augmenter les prix de la fourniture d'électricité pour toute une ville. Et c'est donc la tante de Pipit qui est la PDG de cette compagnie. Et elle se fait un jour attaquer par des subordonnés qui la trahissent. Et qui sépare son esprit en 5 pièces. Et son esprit se retrouve dans le yo-yo de Pipit. Enfin, une partie de cet esprit est dans le yo-yo de Pipit. Et il faut qu'il récupère les 4 autres morceaux pour pouvoir redonner sa forme à sa tante. Donc voilà, c'est globalement le prétexte. Hein, c'est un scénario un peu débilou. Mais c'est bourré de supers idées. Il y a notamment un niveau tout entier qui se déroule dans un stade de foot, parce que le Brésil... Et où tu te retrouves à devoir traverser tous les gradins, tous les vestiaires pour ensuite arriver sur le terrain lui-même où tu vas jouer une sorte de match de foot truqué contre une équipe de robots. Mais vraiment, je le redis, c'est bourré d'idées super intéressantes dans les capacités que tu peux avoir pour ton yo-yo. Il y a une capacité qui va te permettre de te déplacer sur l'eau, sauf que quand tu vas heurter un mur, tu vas tomber dans l'eau et donc tu vas plus pouvoir avancer. Il y en a une autre où ça va te filer une sorte de pouvoir de contre, où tu vas pouvoir contrer toutes les attaques et les renvoyer contre tes adversaires. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce jeu et ça coûte 3 fois rien. Je crois qu'il coûte 20 balles grand max et j'avais dû le choper à 15 balles en solde. C'est idéal sur Switch, mais évidemment, ça se fait aussi très bien sur canapé. Je vous l'ai dit, les musiques restent en tête. Si vous aimez un petit peu ces jeux à l'esprit rétro, c'est un jeu indé à soutenir, un jeu brésilien, franchement, à soutenir. Donc voilà, Pipistrello and the Cursed Yo-Yo, je ne peux qu'en dire du bien. C'était vraiment super. Globalement, ça prend à peu près 20 heures pour le faire à 100%, parce qu'il y a aussi des trucs cachés. Enfin, il y a énormément de petits secrets à débloquer. C'est vraiment chouette. J'ai passé un super moment. C'est... honnêtement, c'est un de mes jeux préférés de 2025.
Bah écoute, je vais le préco tout de suite, enfin le préco.
Et de l'acheter, parce que c'est sorti en mai 2025, mais ça n'a pas eu assez d'exposition, donc vraiment, il faut lui donner de la force à ce jeu.
Je vais lui mettre un petit cœur pour le...
Voilà, il faut lui donner de la force.
Et bah moi, je vais donner de la force à un autre jeu. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Cairn?
Oui, bien entendu, oui. Ça vient de sortir par Gamebakers, les gens qui étaient...
Un jeu de Gamebakers, et donc Gamebakers à qui on a droit l'incroyable Fury.
Voilà, Fury.
Qui oui, était un jeu très très gamer et à la fois...
Très hardcore Fury, ouais.
Très hardcore Fury et en même temps d'inspiration très très japonaise, dans la mesure où il y avait un peu de manic shooting, il y avait de l'action, il y avait d'action d'épée, enfin vraiment il y a beaucoup de choses.
Et le chara-design, enfin ouais vraiment.
Et chara-design, plein de choses, et la musique. Et là, Cairn, c'est un autre délire, puisque il m'apporte toute la satisfaction que Death Stranding 2 n'a pas pu me donner.
C'est de la grimpette.
C'est un jeu de grimpette et tu sais à quel point la montagne, ça nous gagne.
Ça te gagne, ben oui.
Surtout pour moi qui suis en ce moment blessé et qui espère un jour faire, j'aimerais au moins, quelques petits sommets. Hein, j'ai encore
plus. Ouais, ben, pour toi qui as l'esprit Kaizen, Daniel.
Ouais, ouais, il paraît que j'ai l'aspect Ryzen. Pardon, Kaizen, je sais plus. Et donc, du coup, tu incarnes une fille qui s'appelle Ava et qui est une montagnarde. Et qui décide de monter sur le sommet qui s'appelle le Mont Kami, qui est là, qui est une montagne que personne, enfin il y a plein de secrets dans cette montagne et elle veut monter au sommet et accomplir son rêve et aussi elle recherche quelqu'un un peu, mais en même temps tu sens que ça cache quelque chose, tu sens que c'est aussi tous les jeux de grimpe au général sont aussi des réflexions sur nous-mêmes, et donc le personnage réfléchit beaucoup sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle trouve. Parfois, il y a des pauses assez mélancoliques sur le paysage, hein, puisque plus tu montes, et plus le paysage devient incroyable. Mm-hmm. Et c'est un jeu où tu t'accroches au mur et donc tu dois grimper et tu contrôles indépendamment chaque membre et chaque membre il essaye de décider plus ou moins habilement quel est le prochain membre qui va avancer. Tu peux le faire de manière manuelle ou automatique. C'est vraiment assez instinctif et donc il faut monter et donc essayer de trouver les meilleures prises. Peut-être te mettre le meilleur talc au bon moment parce que parfois ça glisse et au fur et à mesure t'as du sang, tu commences à t'ouvrir les doigts au fur et à mesure, c'est vraiment pas très agréable, donc il faut bander les doigts. Mmh. Et puis voilà, tu dois grimper, tu peux poser des pitons au fur et à mesure de ta grimpette, mais t'en as pas un nombre assez limité. Là, je sais pas où j'en suis dans l'histoire, mais en tout cas, j'en ai plus que 3, donc je suis en train de flipper. Et ça gère aussi l'aspect bouffe et l'aspect eau. Donc il faut que tu puisses boire pour essayer de pas avoir trop faim, mais en même temps, dès que t'as faim, tu perds de l'énergie. Enfin bref, il y a toute une histoire aussi. Au fur et à mesure, tu découvres des éléments de l'histoire, tu essaies de mieux comprendre cette espèce de civilisation qui vivait dans la montagne. Et c'est absolument... c'est sidérant, vraiment. J'adore ce jeu. Et il y a un truc très, très proche de Dark Souls et Death Stranding, un peu dans l'idée. C'est-à-dire que Dark Souls, parce que tu es en train de lutter... En fait, tu es en train de lutter contre un boss. Et le boss, c'est la montagne, en fait. Et c'est un boss unique sur lequel il y a un jeu continu. Et il faut que tu essayes de trouver... le meilleur chemin, enfin le chemin où tu vas pas te tuer. Évidemment, tu tombes de temps en temps, tu peux te rattraper à la corde, mais parfois tu meurs, il faut prendre une sauvegarde. Mais voilà, c'est un jeu qui demande à la fois beaucoup de skill, beaucoup de réflexion sur le chemin que tu vas prendre, et en même temps, ça fout un peu le vertige, en fait, mine de rien. Un truc que j'ai pas ressenti depuis très longtemps, le vertige de montagne. Je crois que c'était avec Stéphane la dernière fois. Mm-hmm. Mais voilà, il y a chaque roche et tout, t'as l'impression qu'elle existe dans un but précis et que chaque roche peut être une voie. Il faut juste choisir la difficulté de ta voie, comme dans l'alpinisme. Les musiques sont super. Les graphismes, mec. Les graphismes, c'est le directeur artistique, c'est Mathieu Bablet, dont t'as peut-être entendu parler.
Je connais, oui.
Ouais, quand même, aux États-Unis, donc qui a sorti Silent Genie cette année, mm-hmm. qui est quand même un grand auteur de science-fiction. Et oui, Silent Genie, enfin, il n'y a plus besoin de le présenter. Enfin, je dirais, ça vend tellement, écoute. notre podcast est confidentiel maintenant, comparé à tout ça. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est un jeu français. Moi, je te fais pas le coup de cocorico. Je trouve que c'est un super jeu, quoi. Indépendamment de tout ça, je trouve que c'est un jeu génial et c'est un jeu qui est très profond et qui se pose des questions, qui pose beaucoup de questions aux joueurs au fur et à mesure que tu fais le jeu, mais qui a un point commun avec avec Céleste aussi. Hein. Tu sais, Céleste, au fur et à mesure, c'est un jeu beaucoup plus profond qu'on y croit. Alors, tu peux trouver que le message et tout ça, bon, Céleste, le message, c'est la dépression, hein, tu vois, c'est vaincre sa dépression. Là, c'est un peu autre chose quand même. Mais voilà, tu peux mais je trouve qu'il y a vraiment une profondeur dans ce jeu que j'adore et que je me dis qu'un jour, je vais arriver en haut, hein, finalement, si je vais y arriver. Mais je me dis, comment je vais faire pour ensuite? Il faut que je trouve une autre manière de grimper le jeu, en fait. j'ai vraiment envie d'essayer une autre manière. Donc voilà.
Alors j'ai une question, Daniel.
Dis-moi.
Puisqu'on parle de jeu français d'escalade, mais avec un message derrière, par rapport à Jusant.
Ah bah d'abord, je trouve ça plus technique que Jusant. Mm-hmm. J'adore Jusant.
Que je n'ai pas fait non plus, hein, mais par contre je l'ai acheté.
Jusant est bien, mais par contre je suis pas allé jusqu'au bout parce que Jusant a un petit côté. Il avait un petit côté. Je suis allé très loin, mais j'ai pas fini. Mm-hmm. Parce que Jusant avait un petit côté. Très, très balade, en fait.
D'accord.
C'est pas de la simulation. Jusant, c'est plus un jeu de réflexion sur faut trouver le bon chemin. Et de toute manière, il y a très peu. T'es pas mis face à la mort très souvent, en fait, dans Jusant. Je sais même plus si tu meurs ou pas. Mais bon, bref.
Je saurais pas te dire, puisque, oui, je l'ai acheté, mais toujours pas joué.
Jusant ressemble plus. C'est une espèce de. Comme pareil, hein, c'est une espèce de mini-monde ouvert à la troisième personne. Mm-hmm. Mais par contre. Je dirais que ça ressemble plus à un jeu qui a été fait dans l'esprit de ICO et tu vois les jeux Shadow of Colossus, tu vois, il y a un petit côté jeu d'aventure qui est vraiment vraiment très important. Alors que dans celui-là, je trouve que là il y a vraiment le côté escalade beaucoup plus en avant.
D'accord.
Mais après c'est jugeant, c'est comme un livre dont vous êtes le héros presque pour moi.
D'accord.
En termes de mécanique de jeu, c'est-à-dire la mécanique de jeu, c'est beaucoup plus narratif. Il y a beaucoup plus d'histoire qui est racontée, mais parce que c'est les mecs qui ont fait Life is Strange, donc tu vois, tu peux comprendre qu'ils avaient une histoire à raconter. J'adore Jusant aussi, mais je trouve que là, je suis complètement happé par le mécanique et tout, par le symbiose mécanique et grimpe et mélancolie. Tu vois, il y a un truc vraiment quand t'arrives au sommet et que tu dois te poser avec ton sac et que tu dois faire ta tente et tu prends dans ta tente et puis tu fais tes bandages et tu dois manger et tu dois pioncer. Mais il ne faut pas trop pioncer parce que sinon tu vas avoir la dalle après. Enfin, vraiment, il y a vraiment une notion de survie, quoi.
D'accord.
C'est plus un jeu de survie, c'est aussi un jeu de survie.
D'accord, donc une orientation différente. Bah, cool, cool, cool.
Exactement. Bah, j'espère t'avoir donné envie.
Ah ouais, non, mais je le surveillais de façon de près parce que j'ai déjà vu aussi sur notre Discord des gens en parler. Donc, non, ça avait l'air vraiment super chouette et puis la presse a l'air plutôt enthousiaste. Donc.
Je t'aurais bien parlé de Dragon Quest VII Reimagined, mais tu sais quoi, on est déjà assez long. Je vais le garder pour Soumis ma scène parce que j'ai Soumis ma scène dans pas longtemps.
Et moi, tu sais déjà, j'ai pas encore refait DQ3 de DHD. Faudra que je fasse DQ1 et 2 de DHD. Je pense que Dragon Quest VII Reimagined, bah principe à question, ce sera est-ce que les trois premières heures ont été un petit peu amélioré ou est-ce que c'est toujours l'enfer?
Attends, tu sais quoi, je suis en train de me dire, mais il va sortir. Je crois que mon comment il s'appelle, mon NDA. Attends, il est pour quand mon NDA? Je vérifie. Ah, écoute, c'est bon. Je pense que je peux te le dire. Je peux te dire l'intro. T'es à. Je crois que le premier combat, je l'ai eu en 35 minutes.
Ah bah c'est mieux. C'est mieux.
C'est pas. Alors, est-ce que c'est mieux vraiment?
Bah écoute, moi je me rappelle que j'avais joué sur 3DS.
Mais sur 3DS, c'était 2 heures. Je crois qu'ils avaient ramené à 2 heures.
Et ils avaient déjà raccourci, oui, par rapport à l'original sur PS1, mais c'était déjà interminable. Hein. Donc, c'était.
D'accord, mais je veux dire, c'est un truc unique que te propose un jeu, c'est-à-dire vraiment une mise en place très très longue.
Ouais, mais c'était trop long, vraiment. Hein. Si.
Ok, c'était trop long pour toi, mais je trouve que c'était long. Mais je pense que ça faisait aussi partie du jeu.
Bah, c'est sûr qu'après, tu apprécies, parce que derrière, c'est 80 heures de plaisir.
Mais je pense que pour le prochain jeu, peut-être qu'il va se faire réimaginer dans 15 ans, puisque c'est inévitable, maintenant, tout se fait réimaginer sur les laps de temps de 10-15 ans, je pense qu'il va y avoir simplement une option, passer l'intro, et tu vas directement dans les îles. Je pense que c'est ça, tu skips l'intro, et ça va être une intro YouTube, en fait.
Peut-être.
Regardez ou pas. Et Je pense que tuer ce truc, c'est tuer un truc un peu unique du jeu. Mais ça veut pas dire que c'est faut pas le faire et que parce qu'en fait ils ont filé la démo gratos de DQ7 pour que les gens puissent y jouer. Et je me disais putain, les gens qui vont jouer à la démo, ils vont se taper les 4 heures de machin.
L'intro chiante quoi, bah ouais.
Et finalement ils ont donc que pour 35 minutes. Au bout de 35 minutes, t'as le premier combat.
Bah faut voir alors.
Alors je dis ouais machin. Et alors je peux te dire un truc, mon temps de jeu final, je peux te le dire, j'ai fait plus de 2 fois moins de temps que la première fois que j'ai fini DQ. Et en plus, en mode endgame, presque, non, pas endgame, mais au moins la vraie fin, je crois que j'ai fait 2 fois moins de temps.
Mais est-ce que tous ces remakes, là, parce qu'on a quand même eu un remake du 3, un remake du 1, du 2, un remake du 7, est-ce que ça cacherait pas des difficultés de développement sur le 12 parce que il se fait attendre celui-là?
Alors moi, je suis dans l'ignorance la plus totale, bien sûr.
Ouais.
Mais moi, j'ai parié que le 12, il sera montré en mai.
En mai, d'accord.
Parce que bah, c'est l'anniversaire de la saga. Elle aura 30 ans pile. Elle aura 30 ans. Donc non, mais est-ce qu'elle aura 30 ans? Merde, attends, est-ce qu'elle aura 30 ans ou elle aura 40 ans? Je sais même plus compter. C'est 86, voilà.
Bah oui, 40 ans du coup.
Donc 40 ans.
Bah oui, le premier jeu c'est mai 86, ouais.
Mais ouais, donc moi j'ai parié que c'est mai 2026.
Ah, ce serait la bonne date pour faire une annonce, effectivement.
Oui, ils ont fait ça à l'époque lors de l'annonce de DQ11. Ils l'avaient annoncé le jour d'anniversaire aussi.
Bon bah espérons.
Je pense que c'est ça, mais après que DQ12 prenne énormément de temps, c'est normal. D'abord, il a littéralement 2 personnes du staff qui sont mortes.
C'est vrai.
Genre, il y a Toriyama qui est décédé et il y a...
Et Sugiyama.
Sugiyama. Je pense que pour Sugiyama, c'est autre chose, hein, parce qu'en général, l'étape de la musique, ça vient à la fin. Mais par contre, pour Toriyama, genre, ils disent qu'il a eu le temps de faire les dessins, mais les personnages, mais qu'est-ce qu'on en sait, tu vois.
Ouais.
Donc voilà. Écoute, je pense qu'on est bon là, on a fait un gros épisode finalement.
Voilà, bah, ça va, finalement, on avait du contenu.
On avait du contenu, rappelons-le. Marsulapilami, dispo mercredi dans les...
Marsulapilami.
Marsulapilami. Marsulapilami, dispo mercredi, mais aussi il y avait plein d'autres choses, si vous voulez.
Voilà, n'oubliez pas surtout le film Marsupilami, c'est le film que Daniel veut que vous alliez voir, c'est celui-là.
Non, pas du tout, non, je m'en fous. Non, par contre, jouer à Cairn, c'est super.
Voilà.
On va remercier tout le monde. Merci de nous avoir écoutés.
On remercie nos auditeurs, on remercie nos sponsors sur Patreon.
Ouais, merci à eux de nous soutenir. Et j'en profite, là, on enregistre After Eight. Je perds pas espoir. Super Ciné Battle arrive. C'est juste que Stéphane est vraiment accaparé par... il lui arrivait la pire des choses qui pouvait arriver à quelqu'un de l'éducation nationale.
Il a une promotion.
Il a pris du galon. Mais ça va revenir. C'est juste, il faut que je... Faut qu'on fasse 3 épisodes d'affilée pendant les vacances.
Ouais.
Je vois pas.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de gros le cast. Hein. C'est parce que Stéphane, il n'a pas le temps.
Mais Non, mais ça va arriver. Juste un peu de patience, je suis désolé. Et on s'excuse 1000 fois. Mais c'est pas un hiatus. Hein. C'est vraiment que. Je crois que vraiment, il est. Bah, il met 3 heures de. Il met 3 heures
ah non,
de
mais c'est. Vie. Oui, c'est ton transport ont explosé parce que, bah oui, comme tu dis, il a pris du galon. Du coup, il est dans un établissement qui est vachement plus loin, ouais. Et donc voilà, il se tape de la route.
Et il y a un truc qu'il déteste, c'est la bagnole.
Et comme il déteste aussi écouter des podcasts, et ben, tu vois, il peut même pas écouter des podcasts en bagnole.
Il déteste la bagnole, il déteste les gens même. Hein,
globalement, on peut le dire, c'est un misanthrope, hein, ce connard.
Oh là là, putain, j'espère que les gens ne vont pas écouter. Ah bah l'avancement de monsieur, hein, tu sais, genre, c'est comme les contrats.
Apparemment, c'est un problème, donc on va le dégrader.
C'est comme les contrats de monsieur de Messmaker dans Castor les gaffes. C'est ça. La phrase rituelle, bah, c'est After Eight sur tous les sites dédiés, AfterEight.fr et sur toutes les applications dédiées au podcast. On vous remercie tous et on vous dit à très 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 bientôt pour un prochain épisode. Ciao.
Ciao, bisous.
Ouais, Dragon Quest, je crois que j'ai le droit d'en parler, donc ça va. Mm. C'est ce dont j'ai pas le droit de parler, c'est...
Coupe l'enregistrement, peut-être, avant.
Ah oui, c'est vrai. Oui, ce serait con de...
Hein, ce serait con que ça finisse en bonus.
Ah bah ouais, non.
Après, t'as juste dit que t'as pas le droit d'en parler. Jusque-ci, t'as rien dit de problématique.
Non, mais après, il y a plein d'autres choses dont j'ai pas le droit de parler. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Alors attends, moi je coupe l'enregistrement.
Moi, je vais couper aussi.
Une production RPU.